signora, ti faccio divertire. Presidente delle femmine, non sai. La città non c'è, che ci siamo. Vizio, vizia, viziami la mano. Sei più bella nuda e senza fiato.
Jana, Nanini, évidemment, que j'espère que vous aurez eu la chance d'écouter à Nyon où elle était plus magnifique que d'habitude. Alors maintenant, nous passons à notre spécial festival de la Bâtie, oui, qui se passe à Genève et ceci jusqu'au mon Dieu, je crois 15 septembre, oui, c'est ça, avec toute une série de spectacles, de la musique, du théâtre, de la danse, de la musique ethnologique. Et j'ai suivi pour Remue Ménage un certain nombre de ces spectacles. Alors aujourd'hui, nous allons entendre quelques membres de la troupe du Théâtre du Garage qui joue un spectacle, Dernière Nouvelle de la Peste, au Théâtre du Garage. Peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent bien ce lieu, un lieu squatté dans le triangle de Villereuse à Genève, qui peut-être n'en a plus longtemps à vivre, puisque les promoteurs ont bien d'autres propositions à faire que celle de laisser exister un théâtre dans ce lieu-là. Et donc, il se trouve heureusement des jeunes, comédiens, comédiennes, metteurs en scène, techniciens et autres, qui ont envie de faire vivre ce lieu le plus vite et le plus longtemps possible, tant qu'il existe encore. Nous devions aussi avoir avec nous en direct cet après-midi Christiane Coindy et Marilyn Alassé. Malheureusement, pour diverses raisons, dont il faut chercher la cause chez nous et non pas chez autre chose, eh bien, Christiane Coindy et Marilyn Alassé ne seront pas en direct, mais seront tout à l'heure dans le Memento de Radio Pleine Lune. Mais le plus beau de l'histoire, et tel est le titre du spectacle qu'interprète très fantastiquement, chaleureusement et brillamment Christiane Coindy, puisqu'elle est l'unique comédienne de ce spectacle. Un texte qui a été écrit par Christian Ruillet et mis en scène avec la complicité de Marilyn Alassé. Marilyn Alassé et Christiane Coindy ont l'habitude de travailler ensemble et on sent toute la complicité de leur rencontre au sein de ce spectacle. Je vous dis juste en trois mots ce que Christian Ruillet dit de cette femme qui nous raconte le plus beau de l'histoire. Elle est là, debout, assise, en scène. Je dis elle parce que c'est une femme. Elle range, tout ce qui traîne, tout ce qui dérange. Je dis en scène parce que la représentation est terminée, le spectacle du monde est fini. Les autres sont partis, abandonnant les déchets de leur consommation courante. Elles restent seules, elles jettent et tout y passe. Les hommes, bien sûr les hommes, d'abord. Les gesticulateurs génitaux, ceux qui promettent et qui oublient, ceux qui surjouent et qui inventent. Les écarisseurs d'un bonheur légitime, les pique-assiettes du 5 à 7. Elle jette l'huile et le feu. Elle met de l'ordre des choses, épingle les camisoles et achève les médecines. Elle met des noms sur les visages. Mais aussi, elle rêve avec irrévérence. On l'a poussée au bord et elle se regarde sans vertige. La vie, l'amour, la mort. Sa parole connaît la musique. Alors écoutez simplement Christiane Coindy qui, au nom de cette femme, respire encore. Et c'est tous les soirs au Théâtre de Poche à Genève à 21h. Et ceci jusqu'à quand que je vous le dise? J'ouvre mon petit programme du festival. Et bien ceci jusqu'au samedi 14 septembre. Donc je répète, Théâtre de Poche à Genève, Christiane Coindy dans Le plus beau de l'histoire. Et puis, en Radiozone peut vous proposer pour les jours à venir des billets que vous pouvez obtenir en nous téléphonant très rapidement en direct à notre studio en appelant le 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis Genève, 0033 depuis la Suisse voisine. Alors, deux billets pour le spectacle « Le monde est rond » d'après Gertrude Stein, mise en scène par Xavier Marchand dans le théâtre La Nicolacheur, et c'est au Théâtre du Grutli. Et ces billets sont valables pour le jeudi 5 septembre, donc pour demain à 21h. Alors dépêchez-vous de nous appeler, vous nous donnez vos noms et vos prénoms, adresses, et vous devrez retirer ces billets directement au théâtre. Deux places aussi pour l'ensemble Linéa, un ensemble de percussions, pour le spectacle de jeudi aussi, à Patino à 18h. Et deux places encore pour un spectacle de musique ethno au Suwa Daiko le vendredi 6 septembre à 20h30 à Patino aussi. Alors, nous vous le répétons, si vous téléphonez tout de suite maintenant, vous êtes en direct dans Remue Ménage, Onde Femme Radio Zone 93.8. J'enregistre immédiatement votre demande et la transmets au théâtre. Et si jamais vous appelez en dehors de notre direct, c'est-à-dire après 22h ce soir, eh bien, vous laissez vos noms, adresses, etc. sur le répondeur et vous retrouverez les billets au théâtre. Alors, mais c'est bien plus simple de téléphoner tout de suite maintenant. Comme ça, vous êtes sûr que c'est vous qui les avez. Autrement, le doute plane.
De la coupole de l'opéra et l'exacte proportion de la colonne de la victoire surmontée d'un génie ailé et doré et les palais à colonnades dont les verrières laissent deviner des massifs de palmiers nains, de bougainvilliers et d'eucalyptus et les concrétions échevelées des fontaines publiques mises par le gel et les cerfs-volants en forme de poissons chinois et de dragons qui vibrent au bout de leurs fils.
Entendez le quadrilatère parfait de la place de l'hôtel de ville entouré d'arcades gothiques et l'équilibre du fronton triangulaire de la poste centrale et le foisonnement désordonné des toits pointus à l'intérieur des anciens remparts où la neige commence de fondre. Et au-delà des anciens remparts, les grands buildings de verre où le ciel se reflète tout entier. Et ce petit nuage gris tourterelle. Et ce vol de cygnes sauvages qui va s'abattre dans les marais. Et au-delà des grands buildings, les tunnels éclairés à Diorno, les cabanes de carton et de tôle ondulée, les bassins de décantation, les stations de retraitement des eaux, les rocades, les grands chantiers boueux, cernés par des vignes abandonnées, les poteaux poussiéreux et les villages, peuplés d'enfants et de vieillards.
Suivez le long de ces clés de granit, la longue coulée du fleuve, les bachots lourdement chargés entre les glaçons gris et bleus qui filent vers la mer.
Je ne serai pas en direct avec Sophie Pétraman et Pierre Bovon aujourd'hui au studio parce que tous les comédiens du théâtre du garage, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on vous appelle. Vous jouez au garage, mais je ne sais pas si on vous appelle le théâtre du garage.
Pour le moment, on nous appelle le théâtre du garage, c'est vrai. Mais on a joué dans différents lieux. Il y a eu d'abord le théâtre de l'usine et puis le théâtre du garage. Mais ça a commencé au théâtre de l'usine.
Alors, parce que l'ensemble des comédiens, ils sont nombreux. Ils sont 21, c'est bien juste, j'ai bien compté.
Oui, environ. Enfin, c'est pour ce spectacle-ci, oui, nous sommes 21.
Donc 21 personnes qui, visiblement, doivent faire un certain nombre de choses bien avant le début du spectacle, puisque vous devez être au théâtre aux environs de 6 heures, ce qui empêchait que vous soyez en direct dans notre émission. Qu'est-ce qu'il y a tout à faire 2 heures et demie avant le début du spectacle, Sophie?
Ben oui, c'est vrai, on s'occupe de tout. On a donc un grand lieu qu'on doit nettoyer tous les soirs. On doit vérifier les éclairages, il y a les maquillages, les costumes. Il y a effectivement une grande infrastructure dont on doit s'occuper du début jusqu'à la fin.
Parce que l'installation n'est pas permanente. Pendant que vous jouez, vous allez jouer longtemps. Malgré tout, du 1er septembre au 12 septembre, 12 représentations, vous ne pouvez pas laisser les choses de façon permanente. Vous êtes obligé de réajuster chaque soir.
C'est-à-dire que les éclairages, effectivement, enfin les projecteurs restent en place, mais le lieu est habité par des squatters. Hein, et donc il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a une salle de concert. Donc il y a certains soirs des concerts qui débutent à partir de minuit. Donc pour nous, il est préférable que nous rangions tout le matériel chaque soir.
Donc un lieu très vivant, que ce théâtre du garage qui ne fait pas office que de théâtre. Donc.
Non, il y a donc une salle de concert. Actuellement, il y a une friperie qui a été ouverte. Non, il se passe pas mal de choses depuis quelque temps dans le triangle de Villereuse.
Alors justement, ce qui m'intrigue d'abord, la première chose, avant toute chose, c'est de savoir pourquoi on vous appelle le théâtre du garage, pourquoi vous avez choisi de vous installer dans ce lieu qui n'a évidemment pas du tout l'aspect d'un théâtre traditionnel, qui est un immense espace que vous pouvez, j'imagine, construire et décorer à votre façon chaque fois que vous voulez. On peut utiliser une Vespa comme dans votre spectacle, on peut faire du feu, qu'on pourrait difficilement faire dans n'importe quel autre théâtre. Pourquoi avoir choisi de vous installer dans un lieu comme celui-là, Pierre Bovan ?
Je ne sais pas si on l'a vraiment choisi, c'est-à-dire qu'effectivement on a fait notre premier spectacle à l'usine il y a une année, et puis quelqu'un d'entre nous, je ne me souviens même plus qui c'était, a découvert ce grand garage complètement inutilisé depuis longtemps, et on s'est rendu compte qu'effectivement c'était un espace qui était très intéressant, parce que c'est un espace où on peut faire beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. On peut utiliser l'espace dans différents sens, on peut mettre le public à... On a mis chaque fois le public à des endroits différents pour l'instant, pour nos spectacles. Et on s'y est attaché. C'est un lieu qui, je ne dirais pas qu'il est magique, mais qui a une âme, qui a quelque chose qui fait qu'on a envie d'y rester, qu'on a envie de le préserver si possible.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que c'est difficile d'aller dans les théâtres officiels et que pour vous, c'était aussi un espace gratuit à votre disposition ?
Il y a de ça aussi, c'est vrai, mais c'est pas la raison essentielle, parce que maintenant, quand même, avec le théâtre de l'usine, on peut disposer d'un espace si on a un bon projet. Donc, je crois que la raison essentielle, c'était quand même un coup de foudre pour ce lieu.
De toute façon, le théâtre de l'usine, c'est un peu l'équivalent du théâtre de garage, en quelque sorte. C'est le même genre de lieu, non ?
Je sais pas, ça, c'est une question intéressante. Oui, oui et non. Oui et non, parce qu'au théâtre du garage, il y a quand même justement une troupe, entre guillemets, qui s'est constituée, ce qui n'est pas le cas de l'usine, qui fonctionne quand même beaucoup plus sur des accueils.
Une troupe constituée, vous venez de dire, ça veut dire que donc vous considérez que le groupe que vous êtes est une troupe qui existe. D'ailleurs, il y a une phrase du metteur en scène de votre spectacle, Frédéric Pollier, qui m'a fait d'ailleurs un peu songer à ça, parce qu'il a dit à quelqu'un d'autre, la pièce de Bernard Chartreux que nous avons choisie, donc Dernière nouvelle de la peste, nous permet de sortir de notre répertoire. Pour moi, c'est une phrase qui effectivement indique aussi que vous vous considérez comme une troupe constituée. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ? Vous travaillez ensemble depuis longtemps ? Comment vous êtes-vous réunis ?
La question de savoir si on était une troupe ou pas a provoqué d'ailleurs entre nous une grande discussion un soir. On n'a pas du tout réussi à se mettre d'accord. Donc je crois qu'on est une troupe dans les faits, parce qu'on travaille ensemble depuis quatre spectacles. Mais en même temps, c'est l'idée d'une troupe dynamique, dans le sens où il n'y a jamais eu exactement la même distribution. Il y a eu des gens qui sont venus, qui sont partis. Il y a un espèce de noyau, mais... Ça fluctue quand même passablement.
Ça reste très ouvert.
Dans le sens que vous pourriez intégrer d'autres personnes si elles voulaient s'intégrer. Vous n'avez pas un metteur en scène attitré, mais vous échangez les rôles metteur en scène, mise en scène et comédien.
Oui, je pense que c'est une possibilité pour chacun d'expérimenter une fois la mise en scène, de s'intéresser aussi aux éclairages, de s'intéresser aux costumes, de s'intéresser à plein de choses. Donc les rôles sont parfois échangés. Ceux qui ont envie de faire de la mise en scène depuis un certain temps peuvent s'y lancer. C'est un terrain pour eux, un essai, une expérience.
En tout cas, une chose qui visiblement vous qualifie tous, c'est que vous êtes tous de jeunes comédiens, vous êtes ce qu'on appelle le jeune théâtre. Est-ce que vous avez l'impression qu'en cela, vous vous distinguez des autres troupes, des autres groupes de théâtre ou des gens qui essayent de monter des spectacles aujourd'hui?
Notre chance à nous, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir enrichir, s'enrichir, continuer à s'enrichir, de ne pas rester dans des périodes sans travail. Pour nous, c'est hyper important de travailler tout le temps, de rechercher des choses.
Mais au niveau financier, comment vous vous débrouillez? Parce que le problème des gens de théâtre, c'est de trouver de l'argent pour monter leur spectacle. Sophie, vous dites, mais nous, on travaille en permanence. Alors, comment vous faites ça? Beaucoup de gens sont sans travail en ce moment dans le monde du théâtre.
Ben, on fait comme les autres, c'est-à-dire qu'on demande des subventions pour nos projets. Mais ce qui nous différencie peut-être de certains autres, c'est que même quand il n'y a pas d'argent, on essaye en général de le faire. Ou on travaille avec peu d'argent aussi. Hein, et, on n'a jamais reçu... autant d'argent qu'on avait demandé, mais ça, on n'est pas les seuls dans ce cas-là.
Est-ce que c'est pour vous une chance immense d'être intégré cette fois-ci au Festival de la Bâtie? C'est aussi un encouragement peut-être pour des jeunes comédiens pour vous d'être intégré immédiatement dans un festival comme celui-là?
Pour nous, c'est important par rapport au lieu, parce que c'est évident que le théâtre du garage peut bientôt disparaître, hein, puisque nous sommes dans une situation illégale. Ce théâtre ne nous appartient pas. Il y a des projets sur ce terrain-là. Donc, pour nous, c'est très important qu'on parle actuellement beaucoup du théâtre du garage, pour le lieu surtout.
Alors, à partir de... On va parler maintenant plus spécifiquement de votre spectacle, je répète, qui s'appelle Dernière nouvelle de la peste, texte écrit par Bernard Chartreux, un Français qui avait publié ce texte en 1983, donc c'est un texte relativement récent. Vous avez réussi à ce que dans ce spectacle jouent 20 ou 21 personnes, 21 comédiens. Moi, ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas d'intrigue particulière. C'est un texte qui accumule toutes sortes d'informations. Bon, on repère qu'on évoque peut-être la vie de Londres principalement, mais on entend parler de Lisbonne, on entend parler d'autres villes. On évoque à la fois l'augmentation des morts, des statistiques, on voit, on repère toutes sortes de modes de vie, la religion, la magie, on repère les médecins, les fossoyeurs, enfin bref, l'organisation d'une vie quotidienne en état de, au moment de la peste. Mais il n'y a pas d'histoire particulière et surtout, on ne repère pas vraiment de personnages particuliers. Est-ce que c'est vous qui avez à un moment donné décidé, voilà, on campera tel, chacun a choisi le personnage qu'il voulait camper, ou est-ce que Bernard Chartreux a déjà situé ces personnages-là dans son texte? On a l'impression que c'est vous qui les avez imaginés.
Ben, c'est sûr que Jean-Pierre Vasson... en fait, Chartreux a écrit ce texte d'après des improvisations que Jean-Pierre Vincent a fait avec sa troupe à l'époque. Et donc Chartreux a écrit le texte d'après ses improvisations. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté un peu sketch décousu. Quant aux personnages, c'est vrai que pour la plupart... nous avons choisi plus ou moins les personnages qui nous intéressaient et nous les avons
je crois qu'il y a quand même des personnages qui sont dans le texte, mais le problème de ce texte, c'est que autour d'un problème, la peste, il fonctionne par accumulation de récits. C'est un texte qui est très très narratif et qui est toujours à la limite entre une situation concrète et un récit de cette situation. Et c'est ça qui donne cette impression d'avoir des personnages qu'on a créés nous, mais il y a quand même des indications de personnages dans le texte, dans les didascalies et dans le texte lui-même.
Vous deux, c'est vrai, vous représentez, par exemple, vous campez un couple de charmants anglais en robe blanche qui dessinent et qui regardent la ville au loin. Ces personnages-là, ce n'est pas vous qui les avez imaginés, ils étaient précisés dans le texte.
Oui, oui, tout à fait.
Les costumes, le décor, tout ça, c'est vous qui avez imaginé?
Frédéric Bellier, donc le metteur en scène, avait déjà une idée par rapport... par rapport au décor, donc des structures, des tubulaires, etc. Quant aux costumes, ben je crois que chacun en a été fouillé un peu partout pour trouver des costumes qui pourraient aller par rapport à l'idée de nos personnages.
Si donc chacun de ces personnages, vous les avez créés soit par des indications, soit parce que vous avez cherché. Est-ce qu'on peut dire que on peut considérer que le travail, la façon dont vous travaillez, c'est un genre de travail collectif? Cette fois-ci, c'est Frédéric Pellier qui a mis en scène. Est-ce que c'est lui qui dirige très précisément? Vous avez encore la notion de on lui propose, on échange, puis après c'est lui qui fait ce qu'il en veut. Finalement, il fait une synthèse avec ce qu'on a proposé.
Mais je crois que chaque metteur en scène a un petit peu ses méthodes. C'est vrai que Frédéric Pellier, c'est quelqu'un qui demande beaucoup aux comédiens de proposer, qui attend des propositions, et pour ça c'est assez enrichissant de travailler avec lui, mais c'est quand même lui qui en fin de compte décide, et c'est un travail collectif, mais il y a un metteur en scène, et je crois qu'il signe véritablement sa mise en scène.
Donc c'est pas, vous n'avez pas l'impression que c'est un spectacle que vous avez vraiment créé collectivement, il a mis sa griffe. Et c'est chacun son tour dans le cadre du fonctionnement de votre troupe, Sophie.
Oui, c'est ça.
Dans ce texte, on a l'impression qu'effectivement apparaît toutes sortes de différences de techniques théâtrales. J'ai lu que Jean-Louis Barrault, qui avait créé ce texte, un texte apparent, non pas ce texte-là, mais un texte semblable, qui s'appelait « Ta siège », texte qu'il avait commandé à Camus d'ailleurs, avait en partie utilisé ce même technique. Est-ce que vous vous êtes référé à cette création où il avait beaucoup utilisé, par exemple, à la fois le monologue, le dialogue, le comique, la farce, ce qu'apparemment vous avez aussi mis en évidence dans ce spectacle?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on s'est vraiment référé au travail de Barrault, parce qu'on ne l'a pas vu. Mais disons que c'est un texte qui en lui-même fonctionne sur l'accumulation de choses, sur la répétition, déjà dans les mots eux-mêmes, et puis dans les scènes qui reviennent, au lieu d'avoir une intrigue bien précise. Donc ça nécessite de soi-même un travail particulier, et ce côté un peu baroque, je crois que c'est aussi une part de la griffe, comme vous dites, de Frédéric Pellier, qui aime bien ce genre de choses assez éclatées, assez très diversifiées.
Une chose qui me frappe, en tout cas, c'est que ce texte me paraît tellement dense et souvent effectivement assez descriptif, donc pas ne représentant pas réellement une action théâtrale, que je me demande comment vous, en tant que comédien, vous avez réussi à y trouver un espace d'expression théâtrale. Parce que des tas de fois, on a l'impression que le texte, on pourrait l'entendre lire ou le lire soi-même, mais qu'on a de la peine à se dire, mais comment ils font pour réciter leur texte et en même temps trouver moyen, le temps, la possibilité d'exprimer quelque chose au niveau théâtral. Pour vous, ces textes ont été difficiles à dire et à exprimer?
Je crois qu'il y a des scènes qui tout de suite nous ont paru assez évidentes, et donc on a réussi à théâtraliser assez rapidement. Et il y a d'autres scènes, surtout des monologues, où le texte est construit d'une manière assez difficile pour nous, et on a mis du temps à trouver la théâtralisation de certains passages, oui, effectivement.
Je crois que c'était un peu un pari, on savait que ce texte avait ces caractéristiques-là, donc que c'était à nous d'amener le jeu, et ça c'était quelque chose que tout le monde savait dès le départ, donc c'était un peu un pari, quoi. L'imaginaire des gens a, je pense, assez bien fonctionné.
Ça, c'est intéressant, l'imaginaire, parce que je trouve que la paix, c'est vraiment le thème par excellence qui laisse qui peut laisser paraître toutes sortes d'images. On sait bien combien, depuis la nuit des temps, on a mis derrière la peste toutes sortes d'allégories diverses. Et il semblerait qu'à l'époque où Barrault lui-même avait écrit ce texte-là, il cherchait bien à démontrer, par exemple, la présence de l'occupation allemande en France, etc. Est-ce que vous, il y a quelque chose derrière cette idée de la peste? Pourquoi avoir choisi maintenant un texte qui évoque la peste et quelles images vous avez voulu transmettre aux spectateurs? Je dois avouer que personnellement, j'ai eu de la peine à voir votre intention.
Je ne sais pas s'il y a une image bien précise. Je ne sais pas, évidemment, on pense tout de suite au sida ou à des choses comme ça, mais je ne crois pas qu'on a voulu, ça c'est un avis personnel, mais qu'on ait voulu vraiment donner une métaphore de la peste. Je pense qu'il y a intéressant dans la peste, c'est plutôt le côté que, c'est une phrase d'Artaud d'ailleurs, que la peste c'est la révélation. La peste c'est une catastrophe qui arrive et qui est censée mettre les gens face à eux-mêmes, les faire réagir, les faire réfléchir, les faire. Ce qui n'est pas obligatoirement le cas. Et, d'ailleurs, la peste, à la fin du spectacle, la personne qui personnifie la peste traite tout le monde de petits cons en leur disant qu'ils n'avaient rien compris, justement. Donc la révélation n'a peut-être pas eu lieu. Mais je pensais plutôt ça.
Alors préservé de tout mal, dans la paroisse Sainte-Marie de Woodchurch, c'est-à-dire dans Burbinder Lane, près du marché aux bestiaux, pour la première fois, un homme est mort de la maladie.
Ça a commencé le 11 décembre, dans Long Acre,
vers Long Acre,
dans Long Acre, vers le haut de Drury Lane via la paroisse Saint-Gilles-des-Champs, au nord du fleuve. Le 11 décembre, dans Long Acre, deux hommes, deux Français, sont frappés par la maladie et meurent.
Puis le 26 décembre, même paroisse, même rue, même maison, voilà un autre mort. Même paroisse, même rue, dans une autre maison, voilà un autre mort. Mais Edmond, de la même maladie.
Et oui, Bruno, et durant tout ce temps, le nombre des autres morts augmente dans la paroisse Saint-Gilles-des-Champs et sa voisine Saint-André d'Olbord, au nord du fleuve.
Semaine du 27 décembre au 3 janvier, excusez-moi, Chantal Saint-Gilles au 16.
Plus 1.
Saint-André 17.
Plus 2.
Semaine du 3 au 10 janvier, Saint-André 25.
Plus 10.
Semaine du 10 au 17 janvier, Saint-Gilles, 18.
Plus 3.
Saint-André, 16.
Plus 6.
Semaine du 17 au 24 janvier, Saint-Gilles, 23.
Plus 3.
Saint-André, 18.
Plus 6.
Semaine du 24.
Plus 6, plus 3, plus 10, c'est les morts que l'on compte dans les dernières nouvelles de la peste. Le théâtre du garage, un texte écrit par Bernard Chartreux, mis en scène par Frédéric Pollier, 21 comédiens, un musicien René Chalter. Et tout ça se joue jusqu'au 12 septembre à 20h30 au garage, rue Adrien Lachenal à Genève. Et c'était avec Pierre Bovon et Sophie Petremant que nous nous entretenions cet après-midi. Alors je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres nouvelles du Festival du Bois de la Bâtie, puisque Remue Ménage pour aujourd'hui, eh bien c'est fini. Et tous les billets dont je vous parlais tout à l'heure, ben vous en entendrez parler dans l'émission Radio Pleine Lune, puisque tout le monde est là et on est prêt pour le direct nouveau de l'année et avec plein d'autres nouvelles sur le Festival du Bois de la Bâtie. À bientôt, à la semaine prochaine.
Товарищ Михаил Горбачев, здравствуйте, прекрасная Раиса. У меня Нина Хаген. Михаил. Михаил. Dieses Liedchen ist für dich. Lass dir bloß nicht über den Tisch ziehen und zieh uns nicht über den Tisch. Michael, Michael, bleibe klug und bleibe schlau. Bleibe Kind und sei ein Mann und sei tapfer wie eine Frau. Sonntag Kanonen statt Butter, jetzt gibt es Freiheit statt Butter. Mein lieber Gorbi, das macht mir Sorgi, nix ist mit Freiheit ohne Butter. Ich will im Kien Paradies drin, die Welt soll
Liebe und ein Sojabraten. Oi, oi, Mama, Hoffnung, die ich heg. Mütterchen, mein Russland, mach dich auf den Weg. Oi, oi, Mama, blas mal in ne Glut. Feuerchen, du wärmst mich und das macht mir Mut. Michail, Michail.
Michail.
Michail, Michail.